Chapitre 9. Un grondement de tonnerre s'abat du ciel en faisant trembler sur ses bases l'hôtel de Beaumont où est descendu Egon Godfrey. Des trombes d'eau ruissellent le long des carreaux de la fenêtre près de laquelle il est assis dans le salon de sa suite. L'ordinateur de Rupert Baldwin posé devant sur lui. Il consulte une liste de noms, à commencer par celui de Jim Lee Cassidy, l'agent immobilier de Killeen, qui a vu Hansel et Claire Hawke se diriger à pied vers la gare routière. Baldwin a également répertorié le nom de Suan McMaster, l'employé qui a vendu au couple des billets pour Houston, celui de Lonnie John Bricker, qui conduisait le bus concerné, ou encore celui de Tucker Tredmont, l'odieux chauffeur Uber de Beaumont, qui leur a demandé une fortune pour les conduire jusqu'à une ferme abandonnée au milieu de nulle part. Le nom dont Godfrey a le plus besoin manque à l'appel. Celui de la responsable de la gare routière de Beaumont, une figurante si insignifiante qu'il paraissait totalement inutile de retenir son identité sur le moment. Grâce aux liens mis en place par Baldwin pour accéder aux banques de données de la NSA, Godfrey parvient en quelques minutes à découvrir qu'elle se nomme Marilou Spencer. Si Hansel et Claire Hawke ont effectivement emprunté un 4x4 Mercury au Long Green afin de se rendre à Killeen, reste à savoir s'ils ont bien rallié Houston par la suite. Le grand ordonnateur a fourni à Godfrey une énigme qu'il lui faut résoudre au plus vite, s'il ne veut pas payer les conséquences de son échec. Il est persuadé que Tucker Tredmont, avec ses boots pointus, ses seins débordants et son regard gris-vert calculateur, n'a conduit les Hawks nulle part. Sûrement pas en tout cas dans cette vieille maison avec son poulailler et sa grange branlante. Le plus simple serait de mettre la main sur Tredmont et de le torturer jusqu'à ce qu'il avoue la vérité, mais sans doute serait-ce une erreur. Il pourrait bien s'agir d'un piège. Le grand ordonnateur attend de lui qu'il soit un héros solitaire, capable d'une grande violence. Mais il ne fait rien pour lui faciliter la tâche, sinon il ne l'aurait pas envoyé enquêter à l'autre bout du Texas. Des éclairs apocalyptiques zèbrent le ciel au-dessus de Beaumont, à la façon d'une araignée géante traversant la ville sur ses pattes de feu. La pluie qui dévale le long des carreaux a des reflets de mercure. Egon Godfrey entame ses recherches en commençant par Jim Lee Cassidy, dont il obtient le portrait en quelques clics. L'agent immobilier, âgé de 66 ans, est originaire de Waco, au Texas. Il a servi au sein de l'armée pendant 20 ans avant de se lancer dans l'immobilier. Il est marié à Bonnie Cassidy, née Norton, avec laquelle il a eu deux enfants, Clint, 33 ans, et Caroline, 35. Du fait du passé militaire de son père, et parce qu'il est de la même génération que Nick Hawke, Godfrey est curieux de savoir si Clint n'a pas servi dans les Marines avec le mari de Jane. Il se trouve que Clint n'a pas de passé militaire pour la bonne raison qu'il est né avec un pied beau. Il a été opéré très jeune, mais les séquelles qu'il en a gardées ne l'auraient pas autorisé à s'engager. Sa sœur Caroline n'est pas davantage passée dans les rangs de l'armée. Egon Godfrey est un homme patient. S'il existe un lien entre tous ces gens et les Hawks, il le découvrira. L'idée d'être un héros solitaire lui plaît. Il n'est pas du genre à parler à tort et à travers, ou à porter des cravates mexicaines. Il s'intéresse à présent au deuxième nom de sa liste, celui de Sue Ann McMaster, l'employé de la gare routière de Killeen. L'orage qui gronde dehors n'est pas un simple phénomène météorologique. C'est avant tout une façon pour le grand ordonnateur de saluer la façon dont Godfrey se réinvente dans son rôle. Chaque fois qu'Egon quitte des yeux son écran pour admirer le spectacle de l'autre côté de la vitre, il se rengorge à l'idée que cet orage si réaliste lui est destiné.